Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio, émission Toute la culture que j'aime. Eh bien oui, c'est le vendredi à 18h. Alors au programme de cette émission, eh bien nous allons parler de Jules Verne avec un incroyable spectacle immersif dans un hôtel particulier, caché, gigantesque du 5e arrondissement à Paris. Ça s'appelle Jules Verne, le voyage extraordinaire. Et pour cela, nous allons interviewer son auteur, metteur en scène, Charles Mollet, dans quelques instants. Nous parlerons également d'un des tout derniers vendeurs de journaux à la Criée de Paris. Il s'appelle Ali, il est dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés depuis 50 ans. Avant ça, on écoute tout de suite Kool & The Gang, Cherish. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through the night? Cherish the love we have. We should cherish the life we live. Oh, cherish the love. Cherish the life.
Cherish the love.
Venons d'entendre Cherish de Kool & The Gang et nous recevons donc Charles Mollet. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes metteur en scène, auteur, président de la société de production de spectacles Polaris. Depuis 10 ans, vous créez des spectacles historiques. Et la particularité est qu'il s'agit de spectacles immersifs, hein, vous allez nous expliquer, hein, de déambulations phénoménales dans des lieux de patrimoine, à Paris ou en province, dans des châteaux. Voilà, vous avez produit des dizaines de spectacles qui reçoivent près de 150 000, 180 000 spectateurs par an. Alors en ce moment, se joue à Paris. Et d'ailleurs, depuis déjà presque un an, hein, dans un hôtel particulier du 5e arrondissement, le Grand Hôtel des Rêves, rue Cardinal Lemoine, le voyage extraordinaire de Jules Verne. C'est vraiment passionnant, c'est magnifique, les décors sont très très beaux, sur plus de 1000 mètres carrés. Dans cet hôtel particulier, finalement, le spectacle se déploie en 8 scènes spectaculaires, dans des décors recréés, hein, bien sûr, hein, dans ce lieu magique. Nous plongeons dans l'univers de Jules Verne. C'est un spectacle pour tout public. Alors, Charles Mollet, votre savoir-faire, ce sont plutôt les spectacles immersifs, Pourquoi ?
En fait, les choses se sont un peu faites comme ça parce que au tout début, il y a 10 ans, j'essayais de trouver un moyen de surprendre le spectateur. Les metteurs en scène, les auteurs étaient toujours un petit peu de se distinguer pour apporter quelque chose de neuf, quelque chose de peut-être plus personnel. Et mon idée, c'était en fait de d'emmener les spectateurs à l'intérieur des décors pour leur faire vivre quelque chose qui relève un peu du jamais vu, pour qu'ils aient le sentiment de pas être spectateur, mais d'être au cœur de l'action, du film, au plus proche des comédiens, comme si, en fait, vous traversiez l'écran au cinéma et que vous vous retrouviez in situ, au milieu de la scène, à quelques mètres ou centimètres des héros dont vous allez suivre l'histoire, l'aventure. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait créer dans des lieux de patrimoine, parce que les décors et l'atmosphère de ces endroits est très présente. Donc dans des lieux avec cette majesté, on s'est dit qu'on allait créer des pages d'histoire dans lesquelles les spectateurs allaient pouvoir s'engouffrer. Vous êtes par petits groupes de 30, vous mettez une cape sur vos épaules, les adultes, les enfants, les parents, les amis, c'est un petit groupe, c'est très convivial. On n'est pas 300 personnes assises dans une salle devant une scène, non, on est un tout petit groupe. Une porte s'ouvre, on rentre dans une pièce et là on est happé par le voyage. Et comme vous le disiez, la magie vient du fait qu'on arrive dans des espaces qui sont entièrement décorés en fait. On rentre dans le bureau de Jules Verne, dans l'imprimerie, dans le studio de Nadar, dans le Nautilus, et tout autour de vous, le décor est présent. Vous êtes vraiment à bord du sous-marin du capitaine Nemo et vous pouvez regarder à droite, à gauche, au plafond, par terre, tout vous le rappelle. Vous êtes embarqué avec lui dans l'histoire, et une fois qu'on est rentré, on a ce premier moment où les yeux s'ouvrent en grand, les gens prennent une grande inspiration, les enfants crient waouh, et là, la scène démarre, on n'a presque pas eu le temps de s'en apercevoir, et les comédiens jouent devant vous, et ils vous entraînent dans l'histoire. Et donc on passe d'un lieu à l'autre, et toutes les 5 minutes, c'est un nouvel émerveillement. On n'a jamais le temps de s'ennuyer, et les enfants sont en fait toujours les premiers à courir dans la pièce suivante pour découvrir le nouveau décor, progresser dans l'histoire. Et c'est comme ça qu'on réussit à proposer quelque chose qui parle aux plus grands comme aux plus jeunes. Les plus petits vont être émerveillés par les décors, ils vont comprendre évidemment ce qui se passe. Et puis les plus grands vont pouvoir savourer toute la précision du texte, tout ce qu'il transmet comme idée, comme message, comme réflexion. Et après, à la fin du spectacle, quand on s'installe dans les salons, dernier étage de l'hôtel, qui donne sur son très beau jardin, eh ben, on peut discuter, enfants, parents, amis, de tous ces messages qui nous ont été livrés au cours du spectacle, parce qu'en fait, ce sont des messages extrêmement contemporains, très modernes. Et il y a quelques jours, presque quelques heures, la fusée Artemis est partie vers la Lune, en portant un équipage de 4 hommes et femmes vers la Lune. Et en fait, eh ben, cette scène-là, on la vit dans le spectacle. Et Jules Verne l'avait prédit, programmé, imaginé il y a plus de 150 ans. Et ça, c'est merveilleux.
Oui, c'est ça. Il était finalement précurseur. Et il avait imaginé ce 80 ans avant finalement ce vol, en effet ce vol sur la Lune. Vous parliez donc Charles Mollet de déambulation, hein, de plusieurs lieux que nous visitons par des passages secrets, des décors extrêmement réels et magnifiques. Tout dans le détail, hein, je pense à ce cabinet de curiosité avec des globes, des instruments scientifiques, des livres anciens. Je pense à cette imprimerie, l'imprimerie de l'éditeur de Jules Verne, Pierre-Jules Hetzel, avec une presse. Comment faites-vous pour reconstituer les décors ? Qui est votre chef décorateur ?
Bah en fait, c'est un travail d'équipe. Moi, j'imagine les décors. Notre chef décoratrice, Alban Simon-Duneau, met en œuvre cette partition visuelle, en fait, qu'il va jouer pour les spectateurs. C'est vraiment un travail de concert. On cherche beaucoup, on achète aux enchères. Moi, je voulais par exemple une presse, mais une presse fonctionnelle. C'était très important, c'est-à-dire une presse qui tourne, que les gens puissent la voir marcher et puissent même la faire fonctionner au début du spectacle. On attrape un spectateur, on le met à la presse, il appuie sur la pédale et il met en marche le mécanisme. C'est une presse qui pèse plus de 400 kilos. Tous les objets qui sont là sont des objets anciens. Il y a très peu d'objets modernes. C'est beaucoup de choses qu'on trouve sur des brocantes, en salle des ventes, des tableaux, des gravures, des instruments scientifiques, comme vous le disiez. Il y a des instruments qui viennent de musées, de collections privées, notamment toutes les collections qui sont présentées sur la scène de l'exposition universelle où Thomas Edison fait la présentation de son ampoule électrique. Tous ces éléments-là, en fait, ils ont été chinés, récupérés, retrouvés pour être mis à l'intérieur du spectacle de façon à ce que vos yeux ne se posent que sur des objets qui soient de beaux objets et des objets qui eux-mêmes racontent une histoire. C'est pour ça que même si les acteurs n'ouvraient pas la bouche, déjà, il y aurait toute une histoire incroyable. Dans le final, quand on pose ses mains sur les consoles qui vont permettre de faire décoller une certaine fusée vers la Lune, eh bien, en fait, les consoles derrière lesquelles se trouvent les spectateurs, et ils touchent les boutons, ils mettent en marche toute une série de systèmes avec leurs casques sur les oreilles, eh bien, ces consoles-là, évidemment, ce ne sont pas celles qui étaient utilisées par la NASA en 1969, mais elles sont de cette époque-là. Elles datent de 70, un an plus tard. Donc, en fait, vous êtes avec le même code visuel que celui qui était celui de l'époque. Et tout ça, ça joue. Et ça donne un sentiment d'y être pour de vrai. Et c'est très impressionnant, c'est très crédible pour ceux qui n'ont pas connu. Et c'est tout à fait ça pour ceux qui ont connu et qui disent, mais mon Dieu, mais c'était exactement ça à mon époque. Alors là, on ne parle pas de 1860, on parle plutôt des années 60-70. Et ça parle à tout le monde. Et c'est ça qui est merveilleux.
Oui, c'est ça. Vous le disiez, hein, des objets vraiment historiques qui ont existé et qui nous plongent totalement dans l'histoire. Quel est le point de vue? Est-ce que vous parlez que d'une œuvre de Jules Verne ou plutôt de sa vie, de toute sa carrière?
On traverse, en fait, on suit le fil de l'inspiration de Jules Verne et on va traverser toute sa vie, toute son œuvre. Alors évidemment, Jules Verne a écrit des dizaines et des dizaines de romans. On s'est concentré sur les plus célèbres, puisque c'est aussi ce qu'espèrent et ce qu'attendent nos spectateurs. Mais à travers les romans qu'on va traverser, on va vraiment découvrir la façon dont Jules Verne travaillait, dont il travaillait son inspiration. Et on commence avec une rencontre du Jules Verne presque archétypal, qui est un Jules Verne âgé avec cette barbe blanche à côté d'une grande maquette de bateau et d'un scaphandre. Et il nous explique quelle a été l'origine de tous ses romans, quel était son voyage extraordinaire à lui. Et ce voyage extraordinaire, pour lui, c'est cette quête de l'humanité qui n'a pas de fin et qui vise à repousser plus loin les limites de l'exploration et du voyage, comprendre, aller plus loin, aller plus haut des abysses aux confins du ciel. Et cette quête de l'humanité ne s'arrête jamais et aujourd'hui continue encore, évidemment. C'est pour ça que le propos de Jules Verne est si contemporain. Et puis après, on part dans l'histoire, on va retrouver Jules Verne, alors jeune auteur, âgé de 30 ans et quelques. Il rencontre, comme vous le disiez, son éditeur, Pierre-Jules Hetzel, qui va lui faire confiance autour d'un ouvrage, qui était 5 semaines en ballon, et après, le voyage démarre. On va traverser les plus grands romans de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, 20 000 lieues sous les mers, De la Terre à la Lune, et puis, on va également, et c'est ça qui est savoureux dans ce spectacle, rencontrer les personnes qui l'ont inspiré, qui l'ont guidé dans son travail, qui lui ont donné certaines de ses idées les plus fabuleuses. Et ça, ce sont des personnages qui ont vraiment existé, bien sûr, des personnages historiques, et qui donnent à ce spectacle une densité historique très intéressante et très appréciée des spectateurs qui sont venus. On va croiser George Sand, la grande autrice, écrivaine. On va croiser Félix Tournachon, plus connu sous le nom de Nadar, qui est un très grand photographe de la fin du 19e siècle, qui a réalisé les premières photographies souterraines avec le flash et les premières photographies aériennes depuis un ballon. On va rencontrer le professeur d'astronomie Camille Flammarion. On va rencontrer Thomas Edison. Et c'est des personnes qui ont vraiment existé et qui ont inspiré Jules Verne ou qui ont été inspirées par Jules Verne, comme Nellie Bly, une jeune journaliste du New York World qui, à la suite de la publication du Tour du Monde en 80 jours, décide de partir elle-même faire le tour de la Terre en moins de 80 jours pour battre Phileas Fogg. Et elle va devoir se confronter évidemment à la difficulté de ce défi, mais aussi au fait que son rédacteur en chef estime qu'une femme est incapable de faire ce genre de choses, incapable d'être journaliste, d'écrire des articles et encore moins de faire le tour du monde en moins de 80 jours. Et on rencontre tous ces personnages qui ont vraiment existé et on voit comment ils ont fait naître les héros de Jules Verne, les Phileas Fogg, les Capitaines Nemo, les Michel Ardan et leurs voyages extraordinaires.
Oui, alors on va pas tout révéler, mais il y a également, bien sûr, on pénètre dans le Nautilus, hein, sous-marin de 20 000 lieues sous les mers, et bien d'autres surprises, puisqu'il y a également la fusée, le dirigeable, cette énorme montgolfière dans le studio de Nadar.
Voilà, il y avait un peu des passages obligés en termes de décor, parce qu'il y a un imaginaire collectif très puissant autour de Jules Verne, et c'est peut-être aussi ça qui fait le succès, c'est les décors, l'histoire. Comme vous le disiez, il y a plus de 100 000 spectateurs qui sont déjà venus découvrir ce spectacle. C'est un gros succès, on en est très fiers, mais en fait, nos spectateurs attendent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils espèrent. C'est amusant, mais quand on pense le Tour du Monde en 80 jours, tout le monde pense à une montgolfière, ce qui est faux, puisqu'en fait, il n'y a pas de montgolfière dans le Tour du Monde en 80 jours. Il y a un éléphant, il y a moult trains, moult bateaux, mais il n'y a pas de montgolfière, mais dans 5 semaines en ballon, il y a une montgolfière et qui traduit en fait la passion de Jules Verne pour les machines volantes, pour le développement de ce qu'on appelait à l'époque le plus lourd que l'air, qui va donner ensuite toutes les machines qu'on connaît et qu'on emprunte aujourd'hui pour voyager comme les avions, et jusqu'aux fusées. Et évidemment, il nous fallait une fusée. C'est tellement contemporain, c'est tellement impressionnant de voir à quel point Jules Verne avait été visionnaire sur le voyage spatial. Donc il fallait une fusée. Rendez-vous compte que aujourd'hui, les missions spatiales, Artemis qui a décollé il y a quelques heures, a décollé à 220 km de l'endroit où Jules Verne avait prévu que son obus dans son livre De la Terre à la Lune décollerait. 220 km séparent le pas de tir réel des fusées d'aujourd'hui avec celui imaginé par Jules Verne 100 ans plus tôt. C'est complètement fou. La durée du trajet calculée par Jules Verne est la bonne, à quelques heures près. Le retour dans le Pacifique se fait à 1000 nautiques près de là où retombent les fusées après. Il y a une quantité de choses comme ça qui sont phénoménales. Et puis le Nautilus, évidemment, encore une invention extraordinaire, avec ce navire sous-marin qui peut rester des mois, des années sous l'eau, grâce à une chose, l'électricité. Mais le capitaine Nemo nous dit une électricité d'un nouveau type. Évidemment, quand on voit aujourd'hui les sous-marins nucléaires qui peuvent se dissoudre dans les océans pendant des jours, des heures, des semaines, des années, s'il n'y avait pas le seul facteur limitant, à savoir l'homme, qui a besoin de remonter à la surface pour renouveler les vivres, eh bien, ces machines extraordinaires, elles ont été perçues, inventées, imaginées par Jules Verne, et elles sont là. Il disait souvent, moi, je suis pas un visionnaire, j'invente pas des machines. Je ne fais qu'observer ce qui est aujourd'hui sous nos yeux et anticiper ce qui va arriver de par ce que j'observe. À l'époque de Jules Verne, avec l'électricité, on pouvait faire fonctionner un télégraphe, on faisait même pas fonctionner une ampoule, on n'arrivait pas à faire marcher une ampoule à cette époque, en tout cas au début, quand il écrit 20 000 lieues, et il entrevoit déjà une électricité d'un nouveau type. Il a une révolution de l'énergie d'avance, on n'est même plus au courant continu alternatif, on est carrément passé à l'énergie nucléaire, et c'est une électricité produite par l'atome qui permet probablement, sans qu'il ait été aussi précis, de propulser le Nautilus dans une circumnavigation sous-marine, avec ce personnage emblématique qu'est le capitaine Nemo et que nos spectateurs peuvent évidemment rencontrer à bord de son navire.
Ouais, c'était il y a 130 ans, il avait prévu tout ça, il était visionnaire. Parlons un peu des comédiens Charles Mollet dans ce spectacle Jules Verne, Le Voyage Extraordinaire. Sur cette édition-là, ce sont des comédiens professionnels ou des bénévoles?
Alors, vous avez raison de le préciser, puisque depuis 10 ans, on fait beaucoup de spectacles avec des communautés de volontaires bénévoles dans tout un tas de châteaux. Au Grand Hôtel des Rêves, l'intensité de jeu, en fait, hein, on joue tous les week-ends, vendredi soir, samedi, dimanche, toute la journée, quasiment du matin 10h au soir 20h, y compris les mercredis après-midi, les vendredis fin d'après-midi et soirées.
Il faut s'inscrire, c'est ça, bien sûr, le spectacle est payant, il y a des créneaux horaires.
Voilà, et on choisit son créneau parce qu'on peut partir à 10h, 10h30, 11h, 12h30, enfin bon, quand on veut dans la journée, il y a des départs toutes les 10 minutes, et il y a des créneaux mis en vente toutes les 20 minutes, pour des petits groupes de 30, c'est pour ça qu'il y a plein de départs, pour pouvoir vivre l'expérience de manière très confidentielle. Et donc, du coup, il y a tellement une telle intensité de jeu que ce sont bien évidemment des comédiens professionnels qui incarnent les personnages du Voyage Extraordinaire. Ils sont 25. Quand vous venez à l'hôtel, il y a 25 personnes qui permettent au spectacle d'exister. Vous allez en croiser au cours de votre parcours. Le spectacle dure une heure. Vous allez croiser 18 comédiens et comédiennes dans le monument, dans l'hôtel particulier. Mais en vérité, il y a une troupe de 75 personnes qui se réunissent en fait. Parce que quand il y en a qui jouent le matin, d'autres jouent l'après-midi, et ça s'enchaîne comme ça pour permettre aux spectateurs de vivre le spectacle en continu.
Oui, et le spectacle se joue jusqu'au mois de juin.
Absolument. Et on attend encore beaucoup de spectateurs, et on en est très très heureux, et on espère que vos auditeurs passeront le pas. Mmh. On peut prendre les places sur le site internet du Grand Hôtel des Rêves. On peut aussi regarder, il y a pas mal sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il y a plein de petites vidéos, de bandes annonces qui permettent de bien comprendre ce qu'on va faire, et si on n'était pas tout à fait décidé, de vraiment se donner envie, de se rassurer aussi pour quand beaucoup de gens nous disent « Ah, mais est-ce que c'est bien pour un enfant de 4-5 ans ?» La réponse est oui, puisqu'en fait, les enfants s'émerveillent, et c'est parce qu'on leur donne à voir de belles choses qu'ils vont grandir. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Bien sûr,
souvent, quand un enfant vous demande pourquoi, alors c'est qu'il est mûr pour venir rencontrer Jules Verne et ses personnages, et ses voyages extraordinaires.
Jules Verne, Le Voyage Extraordinaire, c'est donc dans le Grand Hôtel des Rêves, 47 rue Cardinal Lemoine à Paris. Vous pouvez acheter vos places, bien sûr, sur Internet, en choisissant vos créneaux, le vendredi, le samedi, le dimanche, ou même pendant les vacances.
Les jours pendant les vacances scolaires, tout à fait.
Merci beaucoup Charles Mollet. Je rappelle, vous êtes donc l'auteur, le metteur en scène de ce spectacle sur Jules Verne actuellement à Paris. Et vous êtes également bien sûr le président de la société de production de spectacle Polaris. Merci beaucoup.
Merci à vous,
bonsoir. On va écouter d'ailleurs une chanson des Compagnons. De la chanson qui s'appelle Jules Verne.
Monsieur Jules Verne, dans ta giberne, tu as mis le monde entier. Monsieur Jules Verne, sans balivernes, tu nous as tous fait rêver. Dans tes histoires, avec la gloire, le Nautilus est entré. Et sur la lune, toi à la une, tu t'étais déjà posé. Escaladant les montagnes, dans des pays de cocagne, tous les enfants se rejoignent dans tes châteaux en Espagne. Monsieur Jules Verne, dans tes tavernes, comme on aimait bien entrer. Monsieur Jules Verne, dans tes cavernes, vivait un monde enchanté. Monsieur Jules Verne, sous ta poterne, 80 jours ont tourné.
Monsieur Jules Verne, sous ta lanterne, 20 000 lieues ont passé.
Nous embarquions nos chimères sur des engins de mystère,
mais nous visitions la terre dans un habit de lumière.
Et sans bagage, tout est voyage, chacun les imaginait. Et tes histoires dans nos mémoires ont conservé leurs secrets.
Quelle jolie ronde autour du monde, sans même bouger de chez soi. Quelle jolie ronde autour du monde, on a fait.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Eh bien, aujourd'hui, je vais parler d'une histoire tout à fait singulière. Bonsoir, Ali.
Bonsoir.
Très touchée de vous recevoir sur IDFM pour raconter votre incroyable histoire, votre destin tout à fait remarquable. Alors, vous êtes un des tout derniers vendeurs de journaux à la criée de Paris, ce n'est pas rien. Vous êtes une figure, je rajoute, de Saint-Germain-des-Prés. Depuis plus de 50 ans, vous arpentez les rues, les restaurants de ce quartier pour vendre la presse. Vous allez nous raconter. Vous venez de recevoir, c'est pour ça aussi qu'on vous reçoit, parce qu'on est dans l'actualité, il y a 2 mois, l'Ordre national du Mérite. Je le répète, c'est un chemin de vie extraordinaire. Et pourtant, vous avez connu une enfance très difficile au Pakistan, où vous avez travaillé très tôt, dès l'âge de 10 ans, pour sortir de la misère. Vous quittez votre pays à 18 ans pour le fuir, pour vous en sortir, lutter, connaître autre chose. Et après un parcours chaotique, eh bien, vous vous êtes retrouvé en France, à Rouen, en 1972, puis à Paris, en 1973. Et là, à Paris, vous vivez dans la rue, à la rue, pendant un certain moment. Et par hasard, vous vous liez d'amitié avec l'équipe de journalistes de Charlie Hebdo. Et c'est alors que vous allez commencer à distribuer donc la presse, et notamment, bien sûr, Charlie Hebdo. Quel chemin parcouru! Quel destin, quel exemple! Quelle volonté, hein! Tant d'années à arpenter les rues de Paris. D'ailleurs, vous continuez toujours, bien sûr, à vendre la presse, à vendre le monde. Alors, où trouvez-vous, là c'est vraiment la première question qui, moi, me tient à cœur, où trouvez-vous cette énergie, cette joie de vivre, Ali Akbar?
Ah oui, bonjour, oui, justement, quand vous venez de me poser la question, mon arrivée en France, c'est vrai, c'était 1972, j'ai quitté le Pakistan en 1970, justement pour les mêmes raisons que vous venez de citer dans votre question. Mon but, c'est ça, justement, moi je voulais aider une famille qui était dans la misère, dans la pauvreté au Pakistan. Et mon but, c'était de vraiment faire quelque chose pour eux, voilà, de faire bâtir une maison pour ma mère. On vivait presque dans les grottes, hein. On n'avait même pas de maison. Et voilà, mais comme j'étais l'aîné de la famille, et moi j'étais un peu, voilà, en même temps j'étais perdu, vous savez, mais j'avais quand même la conscience de faire quelque chose pour ma famille, pour mes parents. Et comme eux-mêmes, ils étaient un peu, vous savez, quand on est dans la misère, quand on vit dans les grottes, on est un peu, vous savez, les Roms ici qui sont sur les trottoirs, à Paris, on est un peu, pas tout à fait, mais un peu comme ça, quoi. On est dans la rue, on ne connaît rien, on n'est pas éduqué, on ne connaît pas l'école. Et tout ça, c'est un affaire. Et moi, je voulais vraiment changer la situation de ma famille. Et c'est pour ça que c'était la raison pour laquelle que j'ai quitté le Pakistan en 1970. Et puis après avoir traversé tous ces pays comme l'Afghanistan, l'Iran et la Turquie, je suis arrivé en Grèce, et c'est ça que j'ai Justement, j'écris dans mon premier livre, d'ailleurs, j'ai mentionné dans mon premier livre tout mon parcours. L'essentiel est dans mon livre. D'ailleurs, l'histoire, elle est longue. L'histoire, même bon, j'ai quand même écrit, c'est ce que j'ai pu écrire, c'est ce que je pouvais mettre dans ce livre. Et après, bon, ben, je suis arrivé à Rouen, j'ai quitté le bateau sur lequel j'étais serveur. Je vais résumer un peu l'histoire parce que sinon c'est long. Et puis à Rouen, j'ai travaillé un peu dans un restaurant. Pendant un mois et demi, je suis resté là-bas. Après, pour des raisons X, j'ai quitté la ville de Rouen. Je suis venu à Paris. Et je me suis atterri à Saint-Lazare. Et voilà, je vois la gare de Saint-Lazare, qui était magnifique. Il n'y avait pas autant de monde comme aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'était magnifique. J'ai trouvé tout moderne, des jolis bâtiments, des immeubles, des haussmanniens. J'ai trouvé ça magnifique. Paris, c'était une ville pour moi, c'était romantique. Et comme je ne comprenais pas un mot de français, j'étais un peu quand même perdu. J'étais paumé. Et puis, en plus, mon visa était périmé. Et voilà, il y avait quelqu'un qui m'avait... D'abord, ça, je suis venu une première fois en train, mais c'était pour des raisons. Quand je venais à Paris, c'était pour aussi faire transfert de l'argent par une banque pakistanaise au Pakistan. Nous sommes pour ma mère. Et après, à la fin, j'ai quitté en voiture. C'est quelqu'un qui m'avait pris un stop, qui m'a... Voilà, qui m'a laissé à m'amener pour les... J'aime pas raconter tout ça. C'était un peu une histoire un peu douloureuse, c'est-à-dire...
Chaotique.
Chaotique, oui. Et histoire de forêt. Et après, il y a quelqu'un en couple qui m'a pris sur la route, sur l'autoroute d'ailleurs, qui m'a amené ici à Paris, à rue d'Assas, tout près de Port-Royal. On me l'a gardé pendant plusieurs mois. Et puis je suis resté chez eux. Après, bon, je suis descendu dans le quartier latin un jour, j'étais en train de visiter, je suis tombé sur un jeune qui était étudiant argentin et à Paris. Et lui, et il était en train de vendre des revues comme Charlie Hebdo, L'Écho des Savanes et Charlie et Alakili. Comme j'étais dans les besoins, bon, moi je vendais Charlie Hebdo à la fac, et ensuite petit à petit, j'ai commencé à aller vers le quartier latin. Et un jour, j'ai dit, mais pourquoi pas vendre aussi à la Kili. Mais j'étais quand même, j'ai hésité vraiment. Et pour ne pas avoir honte ou être gêné ou timide, j'avais pris quelques verres de rouge. Et c'est ça qui m'a vraiment déclenché, c'est-à-dire j'étais déchaîné, quoi. J'avais plus de team, j'avais...
Eh oui.
Moi, je pensais autrement, j'étais un peu dans la joie. Et puis, je commençais à crier, « Alakili, Charlie Hebdo, Alakili, Charlie Hebdo !» Et les gens, ils achetaient. Et moi, j'étais content. J'ai dit, « Bon, c'est comme ça marche. Les gens, ils achètent. Allez, pourquoi pas ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre Alakili, Charlie Hebdo. Et Charlie Monsoil aussi. Et ensuite, je suis allé... j'ai découvert un autre journal qui
Libération.
Libération. Que je l'ai vendu ici pour Jean-Paul Sartre. C'était toujours dans les années 73. Et voilà, et c'est avec ces journaux de gauche, de anarchistes, même d'ailleurs, Charlie Hebdo, c'est un journal anarchiste, je crois, et qui j'ai commencé à vendre la presse de gauche et des journaux anarchistes. Mais je ne comprenais pas, je ne voulais même pas connaître, et j'ai dit, mais c'est pas mon métier. Bon, c'est pas moi que j'écris, les gens ils lisent, c'est pas grave, c'est un pays, la France, c'est un pays de liberté, peut-être que je pourrais continuer à vendre ou j'aurais pas de problème avec les gens, mais de temps en temps, c'est vrai que j'avais quand même des insultes, il y a des quand même pas. À cette époque-là, il y avait quand même des gens un peu, des patrons dans les restaurants qui ne l'aimaient pas ça, pas que des chrétiens, même des juifs, des juifs religieux, des juifs, des chrétiens, des musulmans, et ça peut leur gêner, hein, ils peuvent...
Oui, des personnes voilà, peut-être plus conservatrices.
Sensibles.
Oui, mais voilà, alors...
Voilà, c'est ça.
D'après ce que vous dites, c'est très impressionnant, parce que vous avez donc surmonté votre propre éducation, mais vous avez dû sentir quand même que c'était possible.
C'était possible. Ouais.
C'était
exactement.
Possible et ça ne heurtait pas finalement les mœurs.
C'est ça.
Je pense. Vous avez eu cette intuition de vous dire, c'est vrai, ça peut être quand même choquant par rapport à vos mœurs, par rapport à votre culture, je pense que vous avez eu cette intuition.
Au début, à cette époque-là.
Oui.
Et après, je me suis habitué, vous savez, j'étais un peu... pas vraiment religieux du tout, mais en même temps, j'avais quand même la foi. Et j'ai encore la foi, mais je suis croyant, mais je ne suis pas du tout pratiquant. C'est vrai que je ne pratique pas, mais j'ai, comme je peux vous savez, il y a trois religions dans ce monde qui sont connues comme judaïsme, christianisme, l'islam. Bon, on doit respecter, ils sont tous quand même des points communs, n'est-ce pas? Et puis, on doit vivre en paix, et puis c'est ce qu'on apprend dans ces religions, dans ces livres, la paix, la tolérance et l'amour. Mais malheureusement, tout se passe pas comme ça. Et c'est l'inverse, tout ce qu'ils font, les gens. Et c'est pour ça qu'il y a des... agitation, vous savez, entre les peuples, entre les gens. Il y a des guerres, il y a des problèmes. Et puis voilà, c'est pour ça, mais bon, vous savez, tout peut effacer par l'amour. C'est l'amour qui peut tout effacer,
oui,
vous savez.
Et puis le lien entre les gens.
Les liens, oui, c'est ça, exactement. Et quand on aime les gens, qu'on aime la vie, qu'on respecte les autres, quand on a la tolérance, qu'on accepte les gens... les autres, et les choses peuvent aller bien, dérouler bien, mais si les gens ils se différencient, c'est-à-dire, voilà, il dit, voilà, moi c'est le meilleur, toi c'est nul, l'autre est con, moi je suis plus intelligent, et c'est ça qui amène des guerres, vous savez, et c'est la domination, les gens ils cherchent à dominer, quoi, c'est ça, je crois. Et après, moi je suis pas politicologue, et je suis pas un sociologue non plus, mais c'est tout ce que j'ai appris avec la vie, vous savez, dans la rue, hein, moi toute ma vie j'ai travaillé, encore aujourd'hui, Marie-Laure Carrère, elle
oui,
connaît.
Oui, l'ami
connaît
qui nous a réunis,
oui,
justement,
ça.
Qui a permis cette interview, hein, merci à Marie-Laure Carrière, oui.
Marie-Laure Carrière, et c'est une personne, belle personne, très sympathique, et vraiment, il y a quand même des gens humains et sympas, vous savez, en France, partout d'ailleurs, et puis il y a aussi des gens... Michel, c'est tout.
Oui, oui. Alors, votre parcours exemplaire, on en parlait tout à l'heure, vous avez surmonté beaucoup d'épreuves incroyables, puisque je le disais, hein, vous êtes parti de votre pays très tôt, hein, vous avez traversé l'Afghanistan, l'Iran, vous avez été en Chine. Certaines personnes vous ont trahi, vous ont déçu. Alors, vous en êtes arrivé là aujourd'hui, vous avez fondé une famille, vous avez 5 enfants, vous avez écrit 3 livres, vous venez de recevoir l'Ordre National du Mérite. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à plutôt certaines personnes sur votre chemin qui vous ont aidé, ou est-ce que c'est en plus particulièrement par rapport à votre tempérament?
Je crois, vous savez, on est toujours, quand on reste sur la ligne, quand on est bien, c'est vrai que la souffrance, la dureté, tout ça, ça fait partie de la vie, vous savez, il y a quand même... il y a des épreuves de la vie, hein, et on peut aussi, on peut souffrir parfois, il y a des moments qui on souffre, il y a des moments qui on est bien, il y a des moments qui on n'est pas bien. Et le monde actuel, c'est un peu comme le bateau Titanic, vous savez, qui est agité, et c'est un peu ça. Et l'homme est compliqué, vous savez, moi je ne peux pas résoudre, comme Rocca il avait dit dans son discours, dans les années passées, moi je ne sais pas la date exacte, comme quoi on peut aider les gens. Mais on ne peut pas tout, on ne peut pas éradiquer la misère de toute la planète. C'est ce qu'il avait dit, je crois, une fois, que j'avais entendu. J'ai bien mémorisé, je n'ai pas écrit, mais j'ai mémorisé ces phrases. Michel Rocca.
Oui.
Et c'est vrai que c'est un pays quand même qui fait beaucoup pour les gens qui sont pauvres, ils sont démunis du tout. C'est-à-dire, ils ont pauvres, la misère, qu'ils n'ont pas les gros moyens, qui... La France, elle aide quand même. Hein. Le pays est quand même... Le système est très bon.
Oui, vous en êtes rendu compte,
oui,
bien évidemment,
exactement.
En 50 ans.
Et c'est ça, oui. Et ça, c'est un minimum. Je ne dis pas, on ne peut pas tout donner non plus. Vous savez, l'homme doit travailler déjà, il faut être digne. il faut être courageux, et puis voilà. Et puis, il ne faut pas chercher la facilité, et puis toujours voir plus que l'autre. Mais voilà, il faut plutôt, pour moi, c'est plutôt éduquer les enfants dans la bonne manière, c'est tout.
Oui, justement, vous me faites une passerelle parfaite. J'allais vous demander, Ali, quel message adresseriez-vous aujourd'hui à la, j'allais dire, à la jeunesse, tout simplement. Un message de savoir-vivre, enfin,
le message
principal pour vous.
Le message principal. Pour moi, vous savez, moi, il n'y a pas un seul exemple. Voilà, il faut penser aux autres, et puis il faut améliorer les choses, et puis il faut respecter les parents, il faut être reconnaissant, que même quand quelqu'un vous offre un verre d'eau, il faut remercier, il faut soutenir les gens, il faut partager la souffrance, il faut partager le bonheur, les bons moments et les moments difficiles. Et voilà, c'est tout.
Ouais, et c'est
l'amour.
Très beau message, se mettre à disposition. Ça, c'est un peu ce que je retiens, se mettre à disposition de l'autre.
C'est ça, voilà, c'est ça.
Alors, on va revenir peut-être à votre métier, hein, à votre vie, puisque c'est votre vie. Vous avez créé du lien, vous avez rencontré toutes les personnalités, enfin, un bon nombre, du monde artistique, politique, de Saint-Germain-des-Prés. Comment se passe aujourd'hui votre métier de vendeur de journaux à la criée? Est-ce que vous continuez malgré, hein, on sait bien, hein, que là, en effet, la presse écrite, bon voilà, a des difficultés. Est-ce que vous continuez quand même à exercer tous les jours?
Oui. Et c'est une bonne question. Justement, je travaille aujourd'hui à 713 ans parce que mon travail, c'est, vous savez, c'est une activité physique. C'est beaucoup physique aussi. Et c'est vrai que je ne le sens pas. C'est pas. Je me sens pas là. C'est-à-dire, je suis jamais fatigué avec ce travail. Mais je suis sensible aux gens toxiques un peu, quelquefois. Voilà, c'est ça. J'ai du mal à supporter un peu les gens qui peuvent vous déranger sans raison, sans rien, quoi. Et c'est ça qui est compliqué, vous savez, dans la vie. Sinon, la vie, elle est belle, et puis on peut continuer le chemin avec le courage. Il faut éviter les toxiques et les cons, tout simplement.
C'est ça.
Et il faut continuer votre chemin, et puis voilà, c'est tout. Il faut respecter les autres, il faut aimer les gens, et puis voilà, c'est tout. Hein.
Oui, tout à fait. Il faut avoir cette énergie et cet amour.
C'est l'amour. Et puis moi, je ne sais pas, vraiment, tout ce que j'ai voulu, j'ai eu. Hein. J'ai voulu faire une maison, ça y est, je l'ai fait pour ma famille au Pakistan. Et maintenant, en France, si je vis en France, c'est vraiment pour... voilà, c'était pour éduquer mes enfants et puis être à côté d'eux, c'est tout. Hein. Je l'ai fait, j'ai quand même bien réussi. Même si on ne peut pas avoir le résultat 100%, c'est impossible. On ne peut pas avoir le résultat 100%, mais quand même, on essaye de faire mieux, c'est tout. Ouais. Maximum pour les autres.
Oui, enfin, vous venez, moi, je me répète un petit peu, mais vous venez quand même d'un passé quand même difficile. Vous n'avez pas été scolarisé, vous avez vécu quand même une certaine misère au Pakistan, vous avez fui votre pays. Justement, je voudrais parler un peu de vos livres. Vous avez écrit donc 3 livres, un tout récemment 2021 qui s'adresse un peu plus aux enfants, hein, aux jeunes publics. Et celui-ci, donc, qui date de 2005, mais enfin il y a eu beaucoup de rééditions, hein, puisque le livre se vend très bien. Je fais rire le monde, mais le monde me fait pleurer.
C'est ça.
Le livre se lit comme un petit pain, enfin je veux dire comme il se dévore, et c'est passionnant. On rentre dans votre histoire complètement, on voit tout votre parcours. C'est vous êtes fait relire. Comment ça s'est passé d'ailleurs pour l'écriture? Comment avez-vous décidé d'écrire un livre il y a 20 ans?
Ah oui, c'est toute une histoire, justement. J'étais au Pakistan quand j'étais enfant. Dans mon pays, au Pakistan, je suis né à Rawalpindi, la ville de Rawalpindi, où je suis né d'ailleurs. Et là, j'ai peut-être 8 ans, 7-8 ans, j'ai grillé les maïs, vous savez, sur les trottoirs. Et il y a, chez nous, au Pakistan, il y a la saison des maïs, qui dure pendant un mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, des maïs. Et moi, j'allais chercher les maïs dans les marchés, les maïs crus et je les grillais sur, près d'un arrêt de bus. Et là, il y a un monsieur qui venait m'acheter le maïs, qui était prof d'un collège. Il était comme quelqu'un, il était très humain, très gentil, ce monsieur. Je crois qu'il était touché par ma situation. Et puis, il voulait m'aider. Et puis, il a dit, mon fils, chaque fois, souvent, il me poussait. Il voulait absolument que j'aille aller à l'école et puis j'apprenne, je sois scolarisé et tout ça. Mais moi, je ne pouvais pas à l'école. Mon père, quand j'étais petit, j'étais dans une école publique. D'ailleurs, on n'apprend pas grand-chose dans les écoles publiques. Et moi, je dormais dans les, vous savez, dans les classes tout petit parce que mon père, il me faisait travailler jour et nuit avec lui. Je faisais la plonge, je faisais tous les petits boulots avec lui au Pakistan. Le ménage, et puis j'allais, vous savez, quand il y avait des banquets de mariage, j'ai coupé. Vous savez, chez nous, il y a des marmites où on prépare des gros plats pour 200 personnes, 300 personnes. Le riz avec des épices. J'ai coupé les. Voilà, j'ai préparé les oignons, coupé les oignons. Et puis. Voilà. Et c'est pour ça, moi. Et ce monsieur qui voulait que j'apprenne à écrire et lire. C'est ce monsieur qui m'avait proposé de venir chez lui un jour, à ce domicile. Il a dit, mon fils, c'est pas grave, tu continues à travailler, mais viens chez moi, je donne des cours particuliers à mes jeunes élèves. Il avait des jeunes élèves à qui il donnait des cours particuliers, pour les devoirs, tout ça, des cours privés. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est commencé. Je suis allé un jour, voilà, après un après-midi, vers 16h, 17h, et c'est lui qui m'a acheté les carnets, puis un stylo, tout ça. Et c'est ce monsieur qui m'a appris à écrire et lire ma langue, ourdou et aussi anglais. Et petit à petit, voilà, et un petit peu de mathématiques, calculations, tout ça, les tables. Et c'est comme ça que je me suis. Voilà, il m'a mis sur les rails, après je suis roulé tout seul. Hein. Puis voilà, de temps en temps, j'ai trouvé des papiers, des journaux, j'ai lisé. Et puis je savais calculer par cœur, tout ça, les tables, calculations. Et puis voilà, et je continuais à travailler en même temps. Comme aujourd'hui, voilà, tout à l'heure, j'étais dans le métro, j'étais en train de traduire un texte. Parce que j'ai maintenant, vous savez, on a encore plus de facilité avec les mobiles, avec ces téléphones portables, il y a tout. On peut traduire un texte d'une langue à l'autre, une autre, et voilà. Et c'est comme ça que je me démerdais comme un autodidacte. Et c'est pour ça. Et voilà, et j'écrivais mon journal. C'est lui qui m'avait conseillé d'ailleurs. Il m'avait dit, je me souviens quand j'étais encore au Pakistan, il m'avait conseillé de faire ça. Il a dit, mon fils, non, maintenant tu sais bien écrire. Et essaye de voir toujours un carnet sur toi et écris tes mémoires sur ta vie. Et fais des notes. Et c'est ce que je faisais.
Ah oui, vous avez commencé à quel âge à écrire votre journal intime?
Ah oui, je me souviens, j'avais 10 ans à peu près, quand il m'avait dit, my son, now you are able to write very good English and Urdu, and time to time, you know what you should do to make a diary, c'est un carnet, diary, you must have, you continue to work with your father, and time to time, you just write your memoirs, that's it.
Oui, il fallait écrire vos mémoires, c'est mémoire. Ce qu'il vous a conseillé.
C'est ce que j'ai noté, je faisais des notes, quoi. Et puis voilà, j'ai les suivi, ces conseils, et c'est ça que j'ai récolté.
Oui, et donc et c'est comme ça qu'est venu votre livre il y a 20 ans.
Il y a 20 ans, voilà, c'est ça.
Voilà, quelqu'un vous a conseillé de l'écrire, non, peut-être?
C'était ce monsieur qui m'avait dit, we never know, en anglais. One day you will be to write a book. Il a dit, il y a un jour peut-être que tu peux faire publier un livre grâce à ton carnet. Voilà.
D'accord.
Grâce à ce journal intime, quoi.
Alors, est-ce que l'humour, quand même, c'est votre secret?
L'humour, oui.
L'humour,
oui, ça. C'est ça, j'ai fabriqué ça au début des années 80. J'ai commencé à inventer mes propres blagues dans la rue, pendant que je vends mes journaux. Parce que Charlie Hebdo, et le journal Charlie Hebdo, de 72, de 13 jusqu'au 80, je n'avais même pas besoin de crier des blagues, parce qu'il y avait tout était sur les couvertures du journal ou de Charlie Hebdo. Mais après, comme ils ont, le journal était disparu dans les années 80, 82, quelque chose comme ça. Et il y a eu des problèmes entre eux. Et après, j'ai essayé de vraiment caricaturer mes propres titres, les titres du journal Le Monde, d'autres journaux. C'est-à-dire, les titres, c'est ce que j'écris aujourd'hui. Par exemple, quand on parle de...
De la retraite.
De retraite, ça y est, la retraite à 35 ans, ça y est. Raffarin est d'accord, par exemple, voilà. Et par exemple, là, j'ai crié, pour de blagues, même, il y a des gens qui peuvent prendre sérieux, au sérieux, mais moi, je crie pour de blagues. Ça y est, comme je ne voyais pas pendant le ramadan, parce qu'il venait souvent manger avec Marine Le Pen, Bardella, ici au Marco Polo, mais moi, comme je ne le voyais pas, je commençais à crier dans la salle, ça y est, c'est officiel, Jordan Bardella fait le ramadan. Ça y est, c'est officiel.
Voilà, donc.
Et toujours, puis voilà, c'était de blague.
Toujours parler, puis, en fin de compte, de l'actualité et créer le lien avec toutes les personnes que vous croisez depuis 50 ans. Donc, on peut vous retrouver, en effet, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Si on veut acheter Le Monde, voilà, quels sont vos horaires?
Ah oui, Le Monde, il arrive à 13h.
Oui,
et c'est là que je commence à tourner. Enfin, je commence ma tournée vers 13h. Et je vais dans les bars, dans les restaurants, puis...
Merci.
Et voilà.
Merci beaucoup, Ali.
Merci.
Ali Akbar, pour cette interview. Un projet, peut-être? Un autre projet de livre, film?
Oui, pourquoi pas? Peut-être si j'ai un jour une proposition, pourquoi pas? Mais, quand même, je suis vraiment content aujourd'hui. Et je suis quand même reconnaissant pour ce pays qui m'a... Même à la fin, même si j'ai beaucoup souffert, ici, si on peut souffrir partout, vous savez, c'était mon destin. Hein. Je ne vais pas accuser telle ou telle personne. C'était mon destin. C'était comme ça. Et quand même, Macron, le président de la République française, qui m'a mis en valeur, c'est quand même... Je dois être reconnaissant et remercié.
Oui.
Et je suis vraiment honoré pour ça, tout ça.
On va finir peut-être sur ce mot-là,
oui.
Mais en tout cas, l'Ordre National du Mérite, vous le méritez. Merci beaucoup, Ali.
Merci.
Bonsoir. Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre le groupe Santana, et oui, Europa. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Je vais vous faire part de mes coups de cœur. Alors d'abord, coup de cœur cinéma. C'est juste à côté, à Enghien, au CDA d'Enghien. C'est demain à 16h. Et dimanche également, La soif du mal. Ne manquez pas ce film à Enghien, d'Orson Welles, version de 1958, film américain d'1h50. Un notable qui meurt dans un attentat à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et une enquête que deux policiers va opposer. C'est donc La soif du mal, demain au CDA d'Enghien. Et dans un autre style, le film Aucun autre choix, c'est demain également à 18h et dimanche à 14h. C'est un film coréen de 2026. C'est un cadre dans une usine de papier, qui est un homme heureux, mais lorsqu'il est licencié, sa vie bascule. C'est Aucun autre choix. Autre coup de cœur à Courbevoie, c'est jeudi, c'est de la danse hip-hop sous tension. C'est une superbe chorégraphie de Laurent Roenbrock. Voilà, sous tension jeudi à l'espace Carpeau de Courbevoie. Eh bien, l'émission se termine et tout de suite, on écoute Dalida. Bésame mucho. Et vendredi prochain, vous retrouverez Marie-Laure. Bonne soirée.
Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Histoire d'amour qui ne finirait pas. On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée pour mieux nous aimer. Voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho.